Bonjour à toutes et à tous. Pour cette dernière chronique du printemps, nous reviendrons sur les événements au Mali. La France a décidé de l'arrêt de la force Barkhane et a perdu son chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, qui a annoncé sa démission 4 ans après son entrée en fonction. Toujours au Mali, la France a annoncé avoir éliminé le djihadiste responsable de l'enlèvement et de la mort des journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. C'était le 2 novembre 2013 à Kidal. En Algérie, les premières élections législatives, organisées depuis le début du mouvement de contestation pacifique Irak, ont été boudées par la population. En Birmanie, Aung San Suu Kyi, face à 2 procès en simultané, sa défense dénonce des accusations absurdes. En Israël, la page Netanyahou se termine après 12 ans au pouvoir. Les pays du G7 étaient réunis cette semaine en Cornouailles. En sport, le premier week-end de l'Euro de football a été marqué par le malaise cardiaque du Danois Christian Eriksen au cours de la rencontre Danemark-Finlande à Copenhague. L'UEFA est la cible de critiques concernant son attitude en coulisses. Sur le terrain sportif, Stefanos Tsitsipas a frôlé l'exploit en finale de Roland-Garros, mais s'est heurté à Novak Djokovic. Chez les dames, la Tchèque Barbora Krejčíková a remporté le simple et le double. En rugby, Bordeaux Bègles et le Racing 92 sont qualifiés pour les demi du top 14. Biarritz est de retour dans l'élite après une victoire homérique sur Bayonne. Après avoir annoncé la fin de la collaboration avec l'armée malienne suite au nouveau coup d'État, la France a annoncé le 10 juin la fin de l'opération Barkhane, débutée en août 2014. La France dispose de 5 100 militaires au Mali, un chiffre qui devrait être divisé par 2 avec l'arrêt de l'opération. 3 bases situées au nord du Mali devraient être fermées. Ce retrait pose également des questions quant à l'avenir de la mission des casques bleus de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, ou MINUSMA, dont la mission n'est pas de lutter contre les groupes terroristes, mais le maintien de la paix et la protection des populations civiles. Nommé il y a 4 ans après le départ contraint de son prédécesseur, le général Pierre de Villiers, le général François Lecointre, chef d'état-major des armées, quittera ses fonctions le 21 juillet. Il sera remplacé par le général Thierry Burcarde, actuellement chef d'état-major de l'armée de terre. Ce départ est officiellement justifié par la volonté de François Lecointre de ne pas politiser sa fonction et de ne pas faire coïncider son départ avec l'élection présidentielle dans moins d'un an. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette dernière chronique du printemps, nous reviendrons sur les événements au Mali. La France a décidé de l'arrêt de la force Barkhane et a perdu son chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, qui a annoncé cette démission 4 ans après son entrée en fonction. Toujours au Mali, la France a annoncé avoir éliminé le djihadiste responsable de l'enlèvement et de la mort des journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. C'était le 2 novembre 2013 à Kidal. En Algérie, les premières élections législatives, organisées depuis le début du mouvement de contestation pacifique Irak, ont été boudées par la population. En Birmanie, Aung San Suu Kyi, face à 2 procès en simultané, sa défense dénonce des accusations absurdes. En Israël, la page Netanyahou se termine après 12 ans au pouvoir. Les pays du G7 étaient réunis cette semaine en Cornouailles. En sport, le premier week-end de l'Euro de football a été marqué par le malaise cardiaque du Danois Christian Eriksen au cours de la rencontre Danemark-Finlande à Copenhague. L'UEFA est la cible de critiques concernant son attitude en coulisses. Sur le terrain sportif, Stefanos Tsitsipas a frôlé l'exploit en finale de Roland-Garros, mais s'est heurté à Novak Djokovic. Chez les dames, la Tchèque Barbora Krejčíková a remporté le simple et le double. En rugby, Bordeaux Bègles et le Racing 92 sont qualifiés pour les demi du top 14. Biarritz est de retour dans l'élite après une victoire homérique sur Bayonne. En Algérie, les élections législatives organisées cette semaine n'ont mobilisé que 30% de la population. Il s'agissait des premières organisées depuis le début du mouvement de contestation pacifique Irak, le 16 février 2019, après l'annonce du cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Le mouvement ne s'est pas arrêté avec le remplacement de celui qui dirigeait le pays depuis 1999 par son ministre de la Défense Abdelmadjid Tebboune le 19 décembre 2019. Les résultats du scrutin, qualifiés de mascarade électorale par une partie de l'opposition, ne sont pas connus presque 48 heures après la fermeture des bureaux de vote. En Birmanie, l'ancienne première ministre Aung San Suu Kyi fait face à la justice de la junte militaire 5 mois après le coup d'État. L'opposante à la junte, âgée de 75 ans, doit comparaître à 2 reprises cette semaine pour importation illégale de talkie-walkie, non-respect des restrictions liées au coronavirus et violation d'une loi sur les télécommunications d'après France 24. À cela s'ajoutent également des procédures pour sédition, corruption et violation d'une loi sur les secrets d'État en date de l'époque coloniale. Ses avocats dénoncent une procédure spectacle uniquement motivée par des raisons politiques. Israël a officiellement tourné la page de l'ère Netanyahou. L'homme d'affaires Naftali Bennett, 49 ans, a été désigné Premier ministre de l'État d'Israël après un vote de confiance accordé par 60 voix pour et 59 contre à la Knesset, le parlement du pays. Natif d'Haïfa, Naftali Bennett est devenu millionnaire grâce à une entreprise spécialisée dans la lutte contre la fraude en ligne. Il a débuté sa carrière politique en tant que ministre des Affaires religieuses du gouvernement Netanyahou en 2013, avant d'être successivement en charge de l'économie, de la diaspora, de l'éducation et de la défense, puis d'être élu à la Knesset en octobre 2019, sous les couleurs de la droite israélienne, le Likoud. Naftali Bennett est un partisan de l'annexion des deux tiers de la Cisjordanie. Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, les pays du G7 se sont réunis à Carbis Bay, dans le nord des Cornouailles, en Angleterre. Une réunion marquée par la première rencontre entre Emmanuel Macron et son homologue américain Joe Biden. Parmi les annonces de ce sommet, la promesse de dons d'un milliard de doses de vaccins anti-Covid à destination des pays pauvres, via le dispositif COVAX ou un financement. Par ailleurs, les sept dirigeants se sont entendus pour demander à la Chine le respect des droits humains au Xinjiang et à Hong Kong. En sport, le début de l'Euro 2000. Après son report en raison de la pandémie l'année dernière, les résultats sportifs ont été éclipsés par le drame évité de justesse lors de la rencontre Danemark-Finlande à Copenhague. Le milieu offensif Christian Eriksen, 29 ans, s'est écroulé à la 43e minute, victime d'un malaise puis d'un arrêt cardiaque. Rapidement pris en charge, il a pu être réanimé avant d'être conduit à l'hôpital voisin. Les raisons de l'accident sont pour l'heure inconnues. Le joueur de l'Inter Milan, pardon, est conscient. L'UEFA, elle, est sous le feu des critiques. Le sélectionneur danois et les légendes Brian Laudrup et Peter Schmeichel ont critiqué le manque de choix des instances qui ont laissé deux choix aux coéquipiers d'Eriksen, reprendre le match le jour même ou le lendemain, sous peine d'un forfait. Les internationaux de France de tennis ont livré leur verdict ce week-end. Samedi, la Tchèque Barbora Krejčíková a remporté l'épreuve dames face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova sur le score de 6-1, 2-6, 6-4. Il s'agit du deuxième titre WTA en simple pour la joueuse de 25 ans. Elle avait ouvert son palmarès à Strasbourg il y a 3 semaines. Barbora Krejčíková, au meilleur de sa forme, puisqu'elle a remporté le double dames dimanche aux côtés de sa compatriote Katerina Siniaková, en dominant la Polonaise Iga Świątek, vainqueur en simple en 2020, et l'Américaine Bethany Mattek-Sands. Chez les hommes, le titre est revenu au numéro 1 mondial, Novak Djokovic, à l'issue d'un renversement de situation face au Grec Stefanos Tsitsipas. Le numéro 5 mondial a mené 2-7-0, 7-6-6-2 avant de s'écrouler. Novak Djokovic est le premier joueur de l'ère Open à remporter au moins deux fois les quatre tournois du Grand Chelem. Pour finir, le public a pu fêter la victoire de la paire française Pierre Hugarbert et Nicolas Mahut, lauréat pour la deuxième fois en double après avoir dominé le duo kazakh Golubev-Bublik 4-6, 7-6, 6-4. Plus que deux matchs avant de savoir qui soulèvera le bouclier de Brennus le 25 juin au Stade de France. Nous connaissons depuis samedi soir les affiches de demi-finale qui se dérouleront vendredi et samedi au Stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq. Vendredi, le Racing 92, troisième de la saison régulière, a pris le meilleur sur le Stade français. Paris, sixième, 38 à 21. Ils défieront La Rochelle, deuxième vendredi, à 20h45. L'autre demi sera la revanche de la demi-finale de Coupe d'Europe entre le leader de la saison régulière, le Stade toulousain, et l'Union Bordeaux-Bègles, vainqueur de Clermont-Ferrand, 25 à 16, au stade Jacques Chaban-Delmas. Le match aura lieu ce samedi, 19 juin, à 20h45. Enfin, la saison de pro des deux a livré son verdict. Perpignan, sacré champion, sera accompagné d'un autre historique du rugby français, le Biarritz Olympique, vainqueur de son voisin de l'Aviron bayonnais, au terme d'un match homérique conclu par un 3-3 après 80 minutes de jeu. À 6-6 au terme des 20 minutes de prolongation, le Biarritz Olympique l'a remporté 6 tirs au but à 5 et retrouve l'élite pour la première fois après 7 ans en deuxième division. Je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.